Radio Capi.
Le journal. Jocelyne Moussao à la présentation.
Radicalisation de la grève des enseignants dans les territoires de Rutshuru, Massissi et Walikale au Nord Kivu. Le non-paiement des salaires et primes alimente la colère du corps enseignant. Et puis au moins 18 civils ont été tués hier mardi à Fotodou, près d'Oicha, dans les territoires de Beni, toujours au Nord Kivu. Là, selon la société civile, les assaillants seraient des rebelles ADF venus d'Ituri. L'armée confirme l'attaque et dit traquer les auteurs. Notre invitée est la professeure Liliane Bibiche Salumu Laumu Omeonga, nouvelle rectrice de l'université Mariste du Congo à Kisangani. Elle est la première femme à diriger une institution universitaire dans la province de la Tchopo. Bonsoir à tous. Commençons au Nord Kivu. Radicalisation de la grève des enseignants des territoires de Rutshuru, Massissi et Walikale. Pour l'intersyndicale de cette province, la non-prise en compte de leurs revendications, notamment le paiement du salaire des enseignants des provinces éducationnelles Nord Kivu 1, 2 et 3, est à la base de ce mouvement de grève. Plus de détails avec Babel Mpongo.
À la deuxième semaine de la rentrée scolaire pour le cas de Rutshuru, les enseignants des écoles publiques et conventionnées refusent de reprendre le chemin de l'école. Motif, le non-paiement de leur salaire via la Caritas Coma, l'agent payeur. C'est comme nous le dit ici Félix Gakiza, secrétaire territorial du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques, SINEP, en territoire de Rutshuru et porte-parole de l'intersyndicale de Rutshuru.
Nous venons de totaliser pour la plupart des écoles plus de 4 mois impayés, d'autres 8 mois impayés, mais également pour ce qui concerne la prime de gratuité et les frais de fonctionnement, 7 mois impayés. Tout cela a poussé aux enseignants de rester à la maison jusqu'à ce que la Caritas va payer tous les arriérés.
Les enseignants de Walikale, eux aussi, durcissent leur grève lancée le 1er septembre, comme l'indique ici Espoir Mouloba Akilimali, porte-parole de l'intersyndicale Nord Kivu 3.
Étant donné que nous ne sommes pas satisfaits, nous prolongeons d'autres 2 semaines à la 18 septembre, au 22 septembre.
Ce mouvement de grève inquiète les parents d'élèves selon le Bureau d'études et d'appui au développement de Walikale, BDOA. Contactez l'administrateur général de la Caritas Goma, l'abbé Toussaint Serotoke, indique que des résolutions ont déjà été prises avec le gouvernement congolais pour une solution durable à cette question.
Et puis les activités scolaires sont paralysées depuis mardi dans plusieurs écoles du territoire de Kabare et à Kamisimbi, dans le territoire de Walungu, Sud Kivu. En cause, un groupe d'hommes armés se présentant comme des Wazalendo qui font irruption dans les écoles pour renvoyer les élèves. Selon nos sources, ces hommes armés arrêtent des enseignants et les contraignent à rejoindre la lutte contre les rebelles du 1-23. Ces agissements sont fermement condamnés par la nouvelle dynamique de la société civile. Pour son président national, Jean Chrysostome Kidjana, l'accès à l'éducation est un droit fondamental pour chaque enfant en RDC. Il appelle à des sanctions sévères contre ces hors-la-loi. Ici à Kinshasa, nous reparlons des écoles publiques situées sur l'avenue Ngiringiri dans la commune du même nom, entre les directions Chaba et Khartoum. Des sites qui évoluent aujourd'hui dans un environnement où garages, boutiques et terrasses et autres restaurants de fortune se côtoient le long du mur de clôture, ce qui perturbe les études, d'où les plaintes des parents et des enseignants. Pour le bourgmestre de cette commune, ces commerces sont érigés sur demande des responsables de ces écoles afin de sécuriser ces sites. Rachel Kalombe, reportage.
Nuisances sonores, présence d'individus qui n'ont rien à voir avec l'éducation et utilisation de l'arrière des salles de classe comme lieu d'aisance. C'est parmi les plaintes des parents et autres enseignants. Ils dénoncent un environnement qu'ils jugent malsain pour les enfants. Ils pointent d'un doigt accusateur les préfets ainsi que les bourgmestres de leur commune. Des responsables d'école n'ayant pas souhaité s'exprimer, nous nous sommes tournés vers les bourgmestres. Pour Léonard Mwamba, la construction de ces maisons de commerce, c'est pour sécuriser les écoles l'école, surtout là où les murs s'étaient écroulés. Et cela, c'est sur demande des responsables de ces écoles.
L'effectif de la police ne permet pas de faire un travail qu'il fallait. Il y a aussi les problèmes d'obscurité. Dans différentes réunions, les participants ont suggéré l'exemple des conventionnés catholiques. Il y a des commerces. Ils ont demandé s'ils peuvent aussi faire de la même façon pour reclôturer ça avec les petites maisons là. Et puis l'autre problème, les préfets parlent de la modicité de frais de fonction. On leur envoie 500 000 francs. Alors s'ils procédaient avec des petites maisons de commerce à la fin du mois, ils peuvent subvenir à leurs besoins de fonctionnement.
Avant la rentrée scolaire, le gouverneur Daniel Bumba avait appelé les bourgmestres à protéger l'environnement scolaire de toutes nuisances sonores et autres perturbations.
Je l'ai dit dans les titres, au Nord Kivu, au moins 18 civils ont été tués mardi à Fotodou, une zone agricole située à une dizaine de kilomètres à l'ouest d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Selon la société civile, le bilan reste provisoire car plusieurs agriculteurs sont portés disparus. L'armée s'est déployée dans la zone pour traquer les assaillants. La bourgmestre de la commune rurale d'Oicha appelle la population à signaler rapidement tout mouvement suspect aux services de sécurité. Marc Marofimbo nous en dit plus.
La société civile attribue cette attaque aux rebelles des ADF, venus selon elle, du territoire voisin d'Irum en Ituri. Ils ont visé simultanément les blocs agricoles de Fotodou, Maleki et Aveï sur l'axe routier Oichamamové. Les bilans provisoires fait état de 18 civils, tous agriculteurs tués par balles, ainsi que plusieurs motos et vélos incendiés. Les FRDC alertés depuis leur position située à plus de 7 km sont arrivés après le retrait des assaillants dans la forêt. Des jeunes volontaires d'Oicha appuyés par les forces de sécurité ont récupéré et déposé les corps à la morgue locale, tandis que les activités agricoles restent paralysées dans la zone. La bourgmestre d'Oicha, Eugénie Kavira Mwenge, appelle la population à collaborer avec les services de sécurité.
Compte tenu de la situation qui s'observe dans le secteur de Benimbao, nous venons de perdre 18 personnes, dont 15 hommes, 3 femmes, 7 motos incendiées, 7 vélos incendiés. À la population de la commune d'Oicha, c'est chaque fois remonter les informations avant l'État.
L'armée confirme l'attaque sans plus de détails. La société civile appelle, elle, les forces conjointes FRDC et PDF à intensifier les patrouilles et à lancer des opérations contre les ADF dans cette zone considérée comme un couloir de leur déplacement entre les territoires de Beni, Lubero et Lituri. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Que la présence de la MONUSCO dans notre entité soit une source de protection et de sécurité, c'est un des souhaits de la population de Boga dans un centre de négoces situé à 120 km au sud de Bunia, dans le territoire d'Irumu. Elle l'a exprimé hier mardi au cours d'une séance de sensibilisation conjointement organisée par les casques bleus indonésiens et les FRDC dans le cadre du mariage civilo-militaire. L'objectif de cette activité était de renforcer le système d'alerte précoce pour anticiper les attaques des rebelles des ADF dans cette région meurtrie. Martial Kizabiamungu.
Cette sensibilisation à la collaboration entre les civils et les militaires s'est déroulée dans l'enceinte de l'Institut Saint-Apollo à Boga. À travers cette activité, les casques bleus de la MONUSCO et le FRDC cherchent une plus grande implication des populations dans la sécurité de leur entité. Elle intervient après l'installation d'une base militaire temporaire de la MONUSCO à Boga pour renforcer la protection des civils contre les ADF. Pour la communauté de Boga, cette présence de la MONUSCO dans les milieux rassure. Les rebelles des ADF ne sont jamais loin. Richard Ruganda, préfet de l'Institut Saint-Apollo.
Ils ont parlé avec nous, ils ont parlé avec les enfants. Et nous continuons toujours à être avec eux. Nous demandons aussi à la population d'être calme, de laisser les agents de sécurité faire leur travail. Parce que nous n'allons pas nous permettre de faire la politique.
À cette même occasion, la MONUSCO a distribué quelques fournitures scolaires aux élèves de l'Institut Saint-Apollo qui ont débuté les cours une semaine après la rentrée officielle le 1er septembre dernier. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Le général Olivier Gassita est parti d'Uvira dans le sud Kivu. Vous l'avez certainement suivi sur nos antennes. Qu'est-ce qui se passe sur place? En tout cas, on constate une reprise des activités socio-économiques. Les boutiques, par exemple, qui étaient fermées, ont réouvert. Cette reprise, je vous rappelle, survient après 7 jours marqués par des manifestations exigeant le départ du général Olivier Gassita. Les Wazalendo et les forces vives locales soupçonnaient l'actuel commandant des FRDC d'être en connivence avec la rébellion 1-23 AFC. Ronéline Tibonera.
Ce matin, la ville retrouve son rythme normal. Paralysé depuis une semaine, le transport en commun a repris. Sur les artères principales, motos, tricycles et véhicules sont de nouveau visibles. Les boutiques qui étaient fermées ont rouvert, permettant aux opérateurs économiques de reprendre leurs activités. Cependant, les écoles, quant à elles, n'ont pas encore repris leurs cours. Les responsables attendent de suivre l'évolution de la situation sur le terrain avant de faire revenir les élèves. Pour les habitants, cette reprise est un véritable soulagement.
Tout va bien, sauf parmi les activités qui ont repris, il y a seulement les enfants qui n'ont pas eu à aller à l'école. Nous demandons à nos autorités de continuer à renforcer la sécurité et la paix dans la ville d'Uvira.
Cette reprise des activités intervient au lendemain du départ du général Olivier Gassita d'Uvira. Lundi, de violentes manifestations avaient éclaté dans la ville. Organisée par la société civile, cette marche de contestation avait été réprimée par le EFARDC. Dans sa communication le jour de l'événement, l'évêque d'Uvira a condamné l'usage disproportionné de la force contre les civils. Sébastien Mouyengo, lors de sa sortie médiatique, a alerté les autorités nationales sur les risques de balkanisation du pays. Au même moment, Kinshasa a promis lundi l'envoi d'une délégation à Uvira pour assurer la population.
Toujours au sud Kivu, les autorités du M23 ont suspendu depuis lundi toutes les activités minières sur le site de l'Omera à Luihihi, dans les territoires de Kabare. Une décision prise pour des raisons sécuritaires selon l'autorité de facto de Bukavu, mais qui passe mal aux yeux des créseurs artisanaux. Retrouvons encore une fois Ronéline Tibonera pour les détails.
Ils sont des milliers ces créseurs artisanaux affectés par cette mesure. L'Omera, connu pour sa production d'or et d'autres métaux précieux, voit désormais ses activités à l'arrêt. Les autorités de facto exigent au préalable que tous les exploitants artisanaux soient identifiés. Elles indiquent que ces sites miniers étaient devenus un foyer d'insécurité pour la zone. Bien que la date de réouverture de ces sites miniers ne soit pas encore connue, la décision suscite déjà de remous au sein de la population. Un créseur artisanal, Jean depuis la zone, déplore la décision de responsable du M23, craignant qu'elle n'aggrave encore les conditions de vie des communautés locales. Depuis plusieurs mois, le site de l'Omera est devenu un refuge pour de nombreux chômeurs. La forte demande d'or et de la cassitérite sur le marché international attire de plus en plus des jeunes venus du Rwanda, de la Tanzanie, vers cette entité du territoire des Kabare. Au-delà de l'exploitation minière, de nombreuses femmes profitent également de ces sites pour vendre des vivres et non-vivres. Elles affirment que ces activités leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille. Cependant, malgré son rôle important dans l'économie locale, l'Omera pose plusieurs défis aux autorités. En juillet dernier, une dizaine de creuseurs artisanaux y avaient perdu la vie en Sévélie. Les normes de sécurité restent largement ignorées. L'utilisation de produits chimiques par les exploitants artisanaux est aussi une source de préoccupation.
En santé, la population du Kasaï oriental est appelée à observer les mesures d'hygiène pour prévenir la propagation de l'épidémie du virus Ebola au lendemain de l'annonce de la réapparition de cette maladie dans la province voisine du Kasaï. Cet appel est lancé par le médecin chargé de la maladie au Kasaï oriental. Il rassure la population qu'au niveau des structures de santé, il y a le renforcement de la surveillance à base communautaire et le partage des outils de surveillance. Mais que doit faire la population elle-même? Docteur Jean Soumba, épidémiologiste et chargé de la maladie à la division provinciale de la santé du Kasaï oriental, propose par exemple d'éviter la viande boucanée. On l'écoute au micro d'Esther Dalafina.
Cette maladie se transmet par contact, la personne qui est malade ou même les animaux qui sont malades. C'est pourquoi nous allons demander à ce que la communauté ne peut pas se mettre à jouer avec les singes, avec les animaux sauvages. Ça, il faut éviter. La viande boucanée, à ce moment ici, il faut vraiment essayer d'éviter. Ou quand vous avez ça, vous mettez à cuire ça, il faut le faire à forte température. Il faut pas consommer le fruit qui sont sur les arbres où il y a beaucoup de chauves-souris, parce que souvent les chauves-souris peuvent contaminer ces fruits-là. Il ne faut pas toucher les personnes qui ont des signes de la maladie. Même leurs vêtements, même leurs dépouilles. Mais il y a ce qu'ils doivent faire, c'est se laver régulièrement les mains. Ça rentre dans le même système avec le choléra. Il faut bien cuire les aliments. Le plus souvent, lorsqu'il y a le moindre signe, c'est référer au centre de santé le plus proche. Ça commence par la fièvre, le syndrome grippal. Tout ça, il faut s'approcher des structures de santé. Mais aussi, il faut en parler pour que les gens puissent être informés. En cas de force majeure, appeler pour être informé ou pour être orienté vers tel ou tel autre endroit.
Signalons que la zone de santé de Boulapé, dans le territoire de Mouika, province du Kasaï, compte actuellement un cumul de 43 cas de malades à virus Ebola, dont 15 décès.
Actualité internationale.
La Pologne a dénoncé ce mercredi un acte d'agression et annoncé avoir abattu des drones russes dans son espace aérien au cours d'une attaque russe contre l'Ukraine. Selon l'armée, au moins 19 objets ont été repérés, dont au moins 7 ont été abattus. Une première pour ce pays, membre de l'OTAN depuis les débuts du conflit, alors que Varsovie a été l'un des alliés les plus importants de l'Ukraine jusqu'ici. Après des vives critiques et l'armée russe a démenti avoir visé la Pologne et s'est dit prête à des consultations avec le pays.
L'invité.
Notre invitée est la professeure Liliane Bibiche Salumu Laumu Omeonga, rectrice de l'Université Mariste du Congo à Kisangani. Son installation officielle est intervenue samedi dernier. Comment cette première femme a dirigé une institution universitaire dont la province de la Tchopo a-t-elle accueilli sa nomination et quelles seront ses priorités? Elle nous en parle dans cet entretien avec Jacques Mukonkole.
Bonjour Madame la rectrice et félicitations pour votre nomination en qualité de rectrice de l'Université Mariste du Congo. Que ressentez-vous en devenant la première femme à diriger une institution universitaire dans notre province?
Merci beaucoup pour les félicitations. Je suis vraiment honorée d'être élevée au rang des rectrices, au rang des hautes fonctions au sein des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, c'est une reconnaissance. Mais cette reconnaissance d'un lutte collectif, ce n'est pas seulement ma propre personne qui est honorée, mais c'est l'affaire de tout le monde qui a confiance au leadership féminin.
Madame la rectrice, l'UMC est une institution universitaire d'obédience catholique. Dans quel état d'esprit comptez-vous travailler avec elle?
Nous tenons d'abord à remercier l'Église catholique pour notre élévation, notre nomination en tant que rectrice. Et nous allons vraiment travailler en étroite collaboration avec les autorités ecclésiastiques, Monseigneur l'archevêque Marcel Otembi et l'évêque auxiliaire Léonard Didate, qui vont nous aider à relever les défis. Nos priorités ne seront que réalistes et effectives, matérialisées si nous avons leur bénédiction. Voilà, et nous comptons beaucoup sur leur apport.
Et Madame, votre nomination intervient dans un contexte où les femmes sont encore sous-représentées ou peu représentées dans l'enseignement supérieur et universitaire. Comment percevez-vous ces défis?
Oui, les défis de sous-représentation de la femme en tant que corps académique ou aussi en tant que membre du comité de gestion, c'est un défi en même temps organisationnel, mais aussi un défi pour les femmes. Les femmes doivent briser ces murs de plafond de verre qui s'érigent pour ne pas reconnaître leurs valeurs. Mais celles qui sont là doivent être des modèles, doivent montrer de quoi elles sont capables pour que celles qui veulent y accéder puissent avoir la facilité. Nous savons que ce n'est pas une chose facile. Les premières brisées de fer sont autant des victimes, mais aussi des bâtisseuses. Alors, elles doivent être soutenues. Ce n'est pas seulement l'affaire des femmes, mais ça doit être l'affaire des sociétés, des hommes et des femmes. Nous promouvons le leadership des femmes aux côtés des hommes, ensemble pour le développement durable.
Et professeur, quelles seront vos priorités à la tête de l'Université Mariste du Congo?
Mes priorités ou les priorités des nouveaux comités de gestion, c'est d'abord accroître l'effectif des étudiants, la prise en charge de personnel propre de l'IMC, veiller aussi à la modernisation des infrastructures et aussi s'assurer de la qualité des enseignements et aussi inviter des personnels scientifiques compétents, consensués, afin de rendre vraiment service à nos étudiants qui sont vraiment le socle de notre intervention.
En plus de votre parcours académique, vous êtes également reconnu pour votre engagement en faveur des droits humains et la protection de l'environnement. Comment comptez-vous concilier cette lutte avec vos nouvelles fonctions de rectrice?
En réalité, la finalité de l'université, c'est de servir la société. Et en tant que défenseur, c'est juste une continuité. Et ça, nous allons le faire non seulement en tant que gestionnaire académique, mais aussi en tant que défenseur des droits de l'homme. Donc il n'y a pas rupture, c'est juste une continuité.
Pour terminer, quel message adressez-vous aux étudiantes en particulier et à la communauté universitaire en général?
Ce que je pourrais dire aux étudiantes, à la communauté, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'extra. Le secret, c'est le travail, c'est la patience, c'est l'endurance, la persévérance, la capacité de s'adapter. Et j'invite tout le monde à avoir de vision. Et la vision doit être une vision éclairée. Accepter la compétition, accepter les critiques pour s'effroger. C'est dans les critiques, c'est dans les contradictions qu'il y a le progrès. Et voilà, j'invite tout le monde à s'ouvrir, à aller de l'avant.
Madame la rectrice, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Encore une fois, félicitations, professeur Saloumou, et bon vent à vous. C'est par ici que prend fin ce journal qui a été coordonné par Élisée Chikota sous la supervision de Polly Mouzalia, Alain Ngoy, la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.